France Inter.
Aujourd'hui, lorsque le Sahara était vert, raconté par
Frédéric Duquesnoy, docteur en archéologie, chercheur associé au laboratoire méditerranéen de préhistoire Europe-Afrique.
Et Jean-Louis Lequelec, directeur de recherche au CNRS, laboratoire IMAF, Institut des mondes africains.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
C'est une découverte dans le Sahara libyen aussi fascinante que déconcertante. Deux momies, deux femmes, vieilles de 7000 ans, préservées et exhumées d'un abri sous roche, et dont l'ADN a révélé qu'il ne contenait aucune trace des gènes subsahariens que les chercheurs s'attendaient pourtant à trouver. À la place, ce matériel génétique semble lié à une lignée nord-africaine isolée pendant la majeure partie de son existence. Ces femmes semblent être les descendantes d'un groupe de chasseurs-cueilleurs qui était déjà très avancé dans la fabrication de poteries, de paniers et d'outils en bois ou en os. Cet isolement génétique pourrait être dû à la diversité des paysages luxuriants du Sahara à cette époque qui limitait les interactions entre les populations. Contrairement aux idées reçues, les savoirs liés à l'élevage ou à l'agriculture ne circulaient pas par le biais de migration, mais plutôt grâce aux échanges de pratiques entre différentes cultures. Ces femmes vivaient donc durant une période humide africaine où le Sahara était couvert de lacs, de bois et de prairies. Pendant ces périodes humides, cette région du monde était un carrefour de biodiversité qui favorisait non seulement la faune et la flore, mais aussi une diversité humaine significative. Les périodes verdoyantes ont donc probablement facilité des mouvements de population et des interactions culturelles qui ont modelé le génome des habitants de cette région. Le Sahara, que l'on connaît aujourd'hui comme un vaste désert avec ses paysages arides et ses dunes de sable infini, n'a donc pas toujours été tel que nous le voyons aujourd'hui. Cette région a connu de multiples transformations au cours des millions d'années, alternant des périodes de verdure luxuriante et des phases de sécheresse extrême. Ces changements sont principalement attribués à des variations climatiques influencées par des modifications d'orientation de l'axe de la rotation de la Terre. Tous les 21 000 ans, cette oscillation augmente l'intensité des moussons en Afrique de l'Ouest, apportant des pluies abondantes qui transforment le paysage désertique en une zone verdoyante. Ainsi, le Sahara nous rappelle qu'il n'est pas seulement un désert, mais qu'il a aussi été le théâtre de transformations écologiques et humaines profondes. Et c'est cette histoire que nous allons vous raconter.
Il y a 10 000 ans, 6 000 ans, le Sahara, qu'on connaît comme l'un des déserts les plus arides sur la planète, n'était pas un désert. Le Sahara était complètement différent de ce qu'on en sait aujourd'hui.
La voix de Roland Népoulet du Musée de l'Homme. Frédéric Duquesnoy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avec nous en studio à Paris. Jean-Loïc Lequelec, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en duplex des studios d'ici La Rochelle. Le Sahara qui est donc au cœur de deux actualités, à la fois un documentaire inédit à voir demain soir sur France 5, Sahara vert, l'énigme du paradis perdu, et puis une exposition également sur les déserts et la vie en milieu extrême qui vient de démarrer au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris et qui est à voir à la Grande Galerie de l'Évolution jusqu'au mois de novembre. Jean-Loïc Lequelec, vous connaissez bien le désert de Libye pour avoir effectué plusieurs missions. Que vous inspire la découverte de ces deux momies de femmes qui vivaient là, donc, il y a à peu près 7000 ans?
Alors, il faut peut-être déjà préciser que c'est des momies naturelles, parce que quand on entend le mot momie, ça fait penser à l'Égypte, voilà, au processus de momification qui a été développé là-bas, et donc à des possibles relations entre l'Égypte et le Sahara central. Pas du tout, c'est des momies naturelles, c'est des personnes qui se sont momifiées naturellement à cause du climat saharien, justement. Ouais. Et donc, c'est très intéressant ce travail, puisque on a très très peu de travaux de ce genre, vu que l'ADN se conserve très 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 mal, et puis qu'on a très peu de fouilles au Sahara,
ouais.
Et c'est très intéressant de découvrir que il y a une lignée qui était absolument inconnue, qui apparaît, donc une lignée indépendante apparemment, enfin en tout cas isolée très longtemps au Sahara. Maintenant, il faut peut-être attendre d'avoir plus de résultats pour en tirer des conclusions, parce que le Sahara, c'est quand même 9 millions de kilomètres carrés. Donc, en déduire des vérités générales sur le processus de domestication et de le pastoralisme au Sahara, ça me semble un petit peu aventureux. Ça n'empêche pas que c'est une découverte très intéressante.
En tout cas, Frédéric Duquesnoy, ce qui est intéressant, c'est que ça nous remet effectivement à cette époque du néolithique où ce Sahara libyen n'était pas le désert que nous connaissons aujourd'hui.
Tout à fait. Alors, le néolithique, il faut aussi savoir qu'est-ce qu'on entend par là, parce que c'est un terme qui a été défini pour le Proche-Orient et puis l'Europe, mais qui ne s'applique pas forcément au Sahara. En tout cas, c'était un moment où, effectivement, le pastoralisme s'est développé, oui. Le pastoralisme bovin, en premier lieu, puisque le pastoralisme ovin et caprin se développera plus tard avec les débuts de la rédification. Et on voit tous ces changements, en fait, au cours de ces quelques millénaires où le Sahara va connaître une période favorable au niveau du climat qui permet d'avoir une végétation qu'on ne soupçonnerait plus maintenant, oui. Quand on est sur place, et qui a permis donc l'existence de la grande faune africaine et puis après, effectivement, des grands troupeaux de bovins qui exigeaient beaucoup de pâturage. Avant une lente dégradation, ouais. Pour les conditions actuelles.
On va en parler pendant cette émission avec un aspect intéressant, c'est que les peintures rupestres, justement, dans le Sahara, que vous connaissez bien tous les deux, donnent des indications très précieuses, justement, sur l'environnement, les conditions de vie à l'époque, par la faune, par exemple. Vous faites tous les deux partie de l'association des Amis de l'art rupestre saharien. Donc, dans cette région du monde, Jean-Louis Lequellec, est-ce que, d'abord, l'aridité est un facteur qui a permis de bien conserver les œuvres que vous étudiez?
Oui, contrairement à ce qui se passe en Europe occidentale, on connaît bien l'art préhistorique dans des grottes. Pourquoi dans des grottes? Parce que les grottes, c'est des espèces de boîtes de conserve dans lesquelles l'art a pu subsister jusqu'à nos jours. Au Sahara, il n'y a pas de grottes et l'art est en plein air, enfin pratiquement en plein air, puisque les peintures se situent généralement dans des abris sous roches. C'est des tout petits abris, voilà, on rentre d'un mètre à tout casser, parfois deux ou trois, mais c'est tout. Donc c'est pas du tout des grottes, c'est en plein air.
C'est ça.
Et c'est grâce au climat que ça s'est conservé jusqu'à nos jours.
Et alors ces chefs-d'œuvre, parce qu'on peut vraiment parler de chefs-d'œuvre, Frédéric Duquesnoy, qui datent de la préhistoire, ont révélé aussi au moment où ils ont été découverts, donc plutôt dans les années 50, c'est ce qu'on apprend aussi dans le documentaire de France 5, un monde occidental, un passé en tout cas, qui était totalement inconnu.
Ah, totalement, oui. On pensait que le désert était immuable. Ouais. Le Sahara est un désert immuable depuis des milliers et des millions d'années. Et en fait, on s'est rendu compte avec la découverte de ces peintures, la révélation de ces peintures aux Occidentaux et des gravures également, que ce n'était pas du tout le cas, puisqu'on avait cette grande faune sauvage qui n'avait pu vivre que dans un milieu de savane tropicale. Et puis, avec beaucoup d'eau, puisqu'il y avait des poissons, des hippopotames, des crocodiles. Et puis après, ce pastoralisme qui visiblement avait une grande ampleur dans le Sahara central.
Ouais. Et on trouve beaucoup, Jean-Louis Lequellec, d'art rupestre dans ces massifs rocheux du Sahara. Est-ce qu'on arrive déjà à avoir une idée un petit peu de ce que ça représente?
Il y a énormément de sites, on en découvre encore chaque année, mais à peu près, on peut dire qu'on en connaît au moins 10 000. Donc c'est vraiment gigantesque. Et quand on dit un site, il peut y avoir une dizaine de peintures ou de gravures, mais il peut y en avoir des milliers. Donc c'est une documentation absolument gigantesque. Et très souvent, sur certains de ces sites, on se trouve en situation d'observer l'équivalent d'un carnet de croquis d'un ethnologue qui aurait été sur le terrain et qui nous aurait laissé des témoignages. On a effectivement les animaux, la grande faune, où on apprend des tas de choses qu'on ne peut pas apprendre autrement, qu'on ne pourrait pas apprendre ni par l'archéologie, ni par la paléontologie. Et puis, on a des scènes de la vie quotidienne, on a des tas de choses qui tiennent, par exemple, du pastoralisme, et aussi des scènes qu'on ne comprend absolument pas et qu'on interprète comme étant plutôt de type mythologique.
On vous voit en Algérie, d'ailleurs, dans le documentaire, dans le désert algérien, Frédéric Duquesnoy, dans un lieu qui est un petit îlot de verdure encore aujourd'hui, absolument exceptionnel évidemment au Sahara. C'est tout ce qui reste d'ailleurs de ce Sahara qui a disparu et qui était donc si luxuriant il y a quelques milliers d'années.
Tout à fait, donc l'oasis d'Hérir. Donc c'est un des lieux où il y a encore un oued qui coule de façon permanente,
ouais.
Sur quelques centaines de mètres, voire peut-être un peu plus d'un kilomètre, avant de se perdre dans les sables. mais c'est effectivement le dernier témoin de ce qu'a pu être le Sahara à l'époque où il était verdoyant.
Donc vous partez en expédition avec des chameaux, où vous allez ensuite dormir à la Belle Étoile, parce que Jean-Luc Lequellec, c'est le seul moyen pour explorer ces régions. Aucune mission scientifique n'est possible sur place sans l'aide des Touaregs.
Absolument, parce que on ne peut se déplacer qu'à pied. Et donc, pour avoir tout le matériel avec soi, mais aussi la boisson qu'on emporte et la nourriture, eh bien, il faut transporter tout ça. Et pour transporter tout ça, ben, il faut soit des chameaux, soit des ânes, ça dépend des régions dans lesquelles on se rend. Mais l'approche des sites est vraiment très, très, très longue. Il faut vraiment être connaisseur. Et sans l'appui et l'aide des Touaregs, ce serait quasiment impossible.
Et il faut donc pouvoir circuler au milieu des cailloux, parce qu'on n'est pas dans un désert, là, celui dont vous nous parlez, de sable, Frédéric Duquesnois, c'est vraiment un désert de cailloux, ce qui d'ailleurs représente au mieux le Sahara, au fond, non ?
Oui, tout à fait.
Plus que le sable.
C'est 90% du Sahara, ce sont des cailloux, ce sont des forêts de pierre, ce sont des tables de roches. Donc le sable est extrêmement rare, finalement, au Sahara, regroupé dans les ergues. Mais donc, heureusement, puisque ça a généré ces abris sous roches dans lesquels on peut retrouver ces vestiges inestimables que sont les peintures et les gravures rupestres.
Il faut avoir un bon œil également, Jean-Luc Lequellec, pour découvrir donc ces chefs-d'œuvre de l'art pariétal qui racontent cette histoire aussi donc, du Sahara vert. Parce que, vous le dites, quand on arrive en fait de l'extérieur, on voit d'abord quoi ? Des taches, en fait, avant de voir les peintures elles-mêmes ?
Alors, tout dépend des sites. Il y a des sites qui sont particulièrement bien conservés. Quand c'est des gravures, par exemple, il y a des choses qu'on ne peut absolument pas manquer, parce qu'il faut savoir que, par exemple, dans certains lieux du Sahara, vous avez des éléphants ou des girafes qui ont été représentés grandeur nature, ou même plus grands que nature. Donc là, quand on arrive à côté, on ne peut que les voir. Par contre, pour les peintures, il arrive que ce soit beaucoup plus difficile, parce que beaucoup sont très bien conservés, et d'autres ont subi les ravages du temps, et sur la paroi, il arrive qu'on ne voit que des taches, on devine qu'il y a eu quelque chose, et à l'œil nu, on ne voit pas grand-chose. Et donc, à ce moment-là, il faut faire intervenir des techniques qui vont permettre de révéler ce qui, autrefois, a existé sur la paroi.
C'est ça, et c'est une bonne transition pour la seconde partie, la deuxième partie de ce dossier, puisqu'on va évoquer, évidemment, les outils aujourd'hui qui vous permettent vraiment de découvrir, de déchiffrer ces parois rocheuses, cet art rupestre comme jamais, et donc, finalement, de réécrire cette histoire du Sahara vert. Et vous répondrez aux messages des auditeurs et auditrices qui nous rejoignent sur franceinter.fr.
Mathieu Vidard, la Terre au carré.
Au cœur du désert saharien, dans les solitudes du Tassili, une équipe d'ethnologues français a retrouvé les traces d'une vie préhistorique. Ainsi se confirme que voici des milliers d'années, le Sahara, parcouru par les restes des grands fleuves de l'ère quaternaire, a été un centre de vie actif. Grâce à Henri Lotte et sa jeune équipe, nous pouvons aujourd'hui évoquer la vie des hommes au milieu d'un peuple de gazelles, de rhinocéros et d'hippopotames, au cœur du Sahara, voici plus de 6000 ans.
Voilà une archive des actualités françaises en 1957, extrait du documentaire Sahara vert, l'énigme du paradis perdu, à voir demain soir sur France 5. Et puis l'exposition Désert qui vient d'ouvrir au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris pour découvrir, alors là, tous les déserts du monde, qu'ils soient recouverts de glace ou de sable. On en parle avec Frédéric Duquesnois et Jean-Luc Lequellec, anthropologue, historien. Vous êtes nos invités. Alors, dans les années 50, Frédéric Duquesnois, Henri Lotte, archéologue français, et son guide Touareg, il faut aussi le citer, Djibril Machar, veulent révéler au monde occidental leur découverte des peintures rupestres, sauf que, évidemment, ils ne peuvent pas déplacer ces œuvres. On parle là du sud algérien. Comment ils vont s'y prendre alors exactement ?
Alors, ils vont utiliser une méthode qui a été mise au point par l'abbé Breuil, donc qui est le pape de la préhistoire à cette époque, et qui consiste à mouiller les parois pour faire apparaître les peintures. Donc il sera même sponsorisé par Spontex.
Ce qui est épouvantable en soi, tout à fait.
Mais effectivement, en fait, les peintures ont été préservées par l'aridité, mais elles ont été voilées par un film de poussière qui les préserve, qui les conserve, mais qui les masque. Et donc, le fait de les mouiller permet de les faire apparaître, mais ça développe par la suite des phénomènes microbiens qui accélèrent leur destruction. Donc, on voit encore maintenant les effets des coups d'éponge sur ses parois, ouais, malheureusement. Mais donc, grâce à ça, ils vont en plus appliquer des calques directement sur la paroi, comme ça se fait à l'époque, en tout cas pour une majorité des personnes qui s'intéressent et qui étudient ces, ouais, ces peintures. Et pour faire des relevés, et ce sont les relevés qui vont être présentés au public. Et donc, des milliers de relevés vont être exécutés par les peintres de Lotte au cours de 6 missions, qui vont s'étaler des années 56 à 70.
Ouais.
Et donc, la plus connue de ces expositions sera celle de 57 au pavillon de Marsan, qui va vraiment créer un choc quand on va découvrir que le Sahara n'avait pas eu l'aridité permanente qu'on pensait, mais abritait une vie foisonnante, autant de la faune sauvage que des humains et de leurs animaux domestiques.
Et puis un choc esthétique, Jean-Louis Lequelec, parce que ces peintures sont d'une beauté stupéfiante. Elles témoignent aussi d'un très haut niveau de culture et de raffinement dans l'expression artistique de ces sociétés, où d'ailleurs, les humains sont très représentés par rapport à des peintures rupestres auxquelles on peut penser ici en France, par exemple.
Oui, alors il faut prendre un peu de recul par rapport à la France, puisque ça, c'est Henri Lotte, il a fait connaître ces images-là en France, mais d'autres que lui les ont fait connaître également en d'autres régions du monde. Je pense par exemple, les premières qui ont été publicisées, si je peux dire, c'est, ouais, celles qui ont été découvertes par Heinrich Barth en 1850, donc quand même plus d'un siècle avant Henri Lotte. Ensuite, on a eu Léo Frobenius, qu'on a fait connaître également. Il y a eu une très belle exposition au Musée de l'Homme dernièrement. Il y a des femmes qui ont participé aussi, comme Yolanda Tchoudi, par exemple, aussi, qui a publié des livres en même temps qu'Henri Lotte. Donc, il y a beaucoup de monde qui, ouais, s'est intéressé à ces images et tout le monde a été, effectivement, frappé par le caractère esthétique, enfin, qui correspond à notre esthétique occidentale, disons, de beaucoup de ces images et par l'omniprésence des humains, contrairement à ce qu'on voit dans l'art des cavernes, où les humains sont absolument rarissimes, là, ils sont omniprésents et il y a énormément de scènes où on ne peut que reconnaître une scène des personnes qui sont ensemble, qui s'occupent de leurs bœufs, des femmes qui sont en train de monter ou démonter des tentes, des scènes de transhumance, etc. Quelles que soient les raisons pour lesquelles ces images ont été réalisées, on y reconnaît des scènes. Et ça, c'est extrêmement différent de tout ce qu'on pouvait connaître auparavant dans l'art des grottes.
Et Frédéric Duquesnoy, ça, ce sont des éléments ultra précieux pour les anthropologues que vous êtes, hein ?
Tout à fait, parce que on voit vraiment sous nos yeux, comme le disait tout à l'heure Jean-Loïc, comme si un ethnologue avait rempli son carnet, oui, des éléments de la vie quotidienne qu'on ne peut pas retrouver en fouille, parce qu'ils seraient détruits. Et puis, des éléments aussi de la vie propre de ces gens-là, et donc des données culturelles qui n'apparaîtraient pas avec les restes archéologiques, qu'ils soient des restes humains ou des restes des tessons de poterie ou des vestiges lithiques ou autres.
Est-ce que Lotte a médiatisé, c'est aussi le fait que le Sahara a connu des variations climatiques il y a 10 000 ans, et on va entendre sa voix en 1957.
Henri Lotte, il y a 8 000 ans, le Sahara était donc habité. La question ne fait plus de doute aujourd'hui, nos fresques l'en apporte la preuve, mais l'on savait aussi, par les gisements préhistoriques retrouvés sur place, ossements de poissons, etc., que le Sahara était autrefois très humide et avait été habité.
Mais quand, justement, à partir de quand date le peuplement du désert, Frédéric Duquesnoy, ou ce qui n'était pas le désert d'ailleurs à l'époque ?
Oui, alors après, ça dépend de quelle période on parle, ouais, parce qu'il a sans doute été toujours habité aux périodes où il était fréquentable, donc dans ces intervalles humides, donc aux périodes beaucoup plus anciennes. Et puis, à partir donc de l'arrivée de la grande période humide africaine, à peu près 11 000 ans avant notre ère, là, on pense que le Sahara, qui était hyper aride, bien plus aride que maintenant, pendant le dernier maximum glaciaire, ouais, est redevenu humide et les populations ont dû revenir avec cette humidification et le repeupler petit à petit.
Et ça, c'est une des questions qui vous intéresse, vous, en tant que scientifique, de savoir quand ce peuplement exactement s'est déroulé ?
Oui, tout à fait, parce que c'est par exemple, pour les vestiges rupestres, ouais, gravures et peintures, on n'a pas de possibilité à l'heure actuelle de datation directe. Et donc, ce serait un des indices qui nous permettrait d'avoir des idées, ou tout du moins, avant des certitudes, mais, ouais, au moins des idées sur l'âge de ces peintures et de ces différentes peintures, de pouvoir les classer chronologiquement.
Et donc là aussi, d'établir un environnement tel qu'il était à l'époque. Jean-Louis Lequelec, vous évoquez justement dans le documentaire de France 5 les outils, les technologies qui vous servent aujourd'hui pour explorer justement les roches du Sahara. Ça, c'est aussi quelque chose qui a complètement bouleversé vos pratiques, j'imagine, ces outils-là.
Oui, parce que sur des parois où, avant l'émergence de ces outils, on ne voyait pratiquement rien, et donc on prenait même pas la peine d'observer avec attention, et encore moins de photographier, on sait maintenant qu'il peut y avoir des choses, et que ces choses, on peut les révéler grâce à ces outils. Alors le premier de ces outils qui est apparu, c'est un logiciel qui s'appelle DeepStretch, et ce logiciel avait été conçu par la NASA pour analyser les images rapportées de Mars. Et puis, il a ensuite été un petit peu modifié pour analyser des images médicales. Et ouais. Puis, quelqu'un qui s'appelle Jan Harman l'a modifié pour analyser les images rupestres. Et en fait, c'est un principe qui est très différent de tous les traitements d'images qu'on peut connaître et qu'on pratique par ailleurs. C'est un traitement statistique des pixels qui fait que votre appareil photo, son capteur, a capté des choses que vous n'avez pas vues et que vous ne pouvez pas voir, même le nez sur la paroi. Mais elles ont été captées par l'appareil, et donc ce système permet statistiquement de les rendre visibles à notre œil. Ce qui fait que maintenant, on s'est dit qu'on s'est apparu, à la fois c'est une merveille, parce que sur des endroits où on ne voyait rien, on voit apparaître des personnages, des animaux, etc. Mais en même temps, c'est aussi, d'une certaine façon, catastrophique, si peux dire, puisqu'il faut repasser partout pour vérifier.
Tout ce que vous connaissez, Frédéric Duquesnois, vous qui avez fait votre thèse, par exemple, hein, sur l'un des lieux les plus connus, hein, c'est le Grand Dieu, justement, dans quel endroit exactement ça se trouve?
Le Grand Dieu de ces phares, tel que l'avait appelé Henri Lot, donc au cœur de la Tassiline Alger, dans le sud algérien.
Donc vous avez fait votre thèse sur ce Grand Dieu, qui fait combien d'ailleurs de hauteur?
Il fait 3,40 m.
Voilà, donc très belle peinture rupestre. Et donc, avec ces outils-là, vous découvrez des choses que vous n'aviez pas vues évidemment à l'époque?
Non, pas du tout. Si on passe devant la paroi, on voit une profusion de peintures, mais qui sont difficiles à démêler.
Oui.
Et puis donc, si on se réfère au relevé d'Henri Lot, ils avaient relevé 51 peintures sur cette paroi. Grâce au logiciel DeepStretch, j'en ai trouvé plus de 200.
Voilà, donc il faut tout refaire en fait.
Il faut tout refaire.
Globalement, voilà, donc c'est à la fois très excitant et puis j'imagine ça représente une telle quantité de travail que c'est assez vertigineux aussi pour
complètement
vous.
Et ça demanderait une pléthore d'archéologues pour venir à bout de ce corpus qui est gigantesque.
Il y a donc ces outils pour découvrir l'environnement dans lequel vivaient ces sociétés préhistoriques, et puis les archéozoologues s'appuient également sur les ossements d'animaux pour identifier le milieu de l'époque. On écoute Joséphine Le Sûr.
Qu'est-ce qu'ils mangeaient? Qu'est-ce qu'ils pêchaient? Est-ce qu'ils chassaient? Et donc là, par exemple, je mesure les vertèbres de poissons. Donc on peut reconstituer avec une mesure de vertèbre à peu près la taille de l'animal. Là, on a des individus qui étaient quand même très grands, donc il faut beaucoup d'eau quoi, pour que ces poissons-là puissent se développer jusqu'à cette taille-là.
Joséphine Le Sûr. Alors effectivement, il faut vraiment des espaces aquatiques importants. Même chose pour les hippopotames, par exemple. Jean-Loïc Lequelec, les hippopotames, animal, on le sait, qui a besoin d'un lac ou d'un fleuve pour s'immerger. Et là encore, grâce à ces peintures, eh bien, on arrive à dire que l'environnement était tel qu'il était à l'époque, c'est-à-dire beaucoup plus vert qu'aujourd'hui.
Oui, parce que les animaux qui sont représentés avec une telle fidélité qu'on est absolument certain que les gens les ont vus. Et donc que ces animaux étaient présents à cet endroit-là. On a par exemple des scènes de chasse à l'éléphant qui sont extrêmement véristes, avec plein de détails. On voit les boomerangs, puisqu'on peut appeler ça comme ça. Les chasseurs utilisaient des sortes de boomerangs. On les voit brandis à la main, on les voit voler en l'air et on les voit frapper l'éléphant. On voit le sang qui coule. Mmh. Il y a des représentations qui sont vraiment très véristes. On ne peut pas douter de la présence de troupeaux d'éléphants. Mais un éléphant, ça mange 300 kilos de fourrage par jour. Il lui faut 200 litres d'eau par jour. Et donc, un troupeau d'éléphants, on voit tout de suite que c'est absolument impossible de l'imaginer dans un paysage tel que celui qu'on observe quand on détourne les yeux de la peinture et quand on regarde autour de soi aujourd'hui. Il fallait évidemment un paysage de savane suffisamment herboré et arboré pour que vivent des éléphants, des girafes, et puis des fleuves, qu'il y a des fleuves pour les hippopotames, les crocodiles, d'énormes poissons, etc.
Allez, on va se retrouver dans un instant pour la suite de ce dossier sur le Sahara vert, et puis vous répondrez aux messages et aux questions qui arrivent pour vous sur franceinter.fr.
La Terre au carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
Imaginez un Sahara qui devient vert, c'est comme imaginer Mars avec des plantes ou des arbres. On n'a pas de cas sur la planète où on est passé d'un désert total à une zone qui est végétalisée. c'est une espèce de reconstitution de l'environnement, de l'écosystème. S'il y a des pollens de chêne ou de cèdre, on peut penser à la présence d'une forêt, les pistachiers, les oliviers, et même certaines proportions de cèdres. Ce sont des plantes aujourd'hui qui nous indiquent plus de précipitations que 500 ou 600 mm par an.
Le palynologue Rachid Chedadi dans le documentaire Sahara vers l'énigme du paradis perdu à voir demain sur France 5. Frédéric Duquesnoy, Jean-Loïc Lequelec, vous participez justement à ce film, vous qui êtes anthropologue et préhistorien. Et on apprend effectivement que les pollens, comme les grains de sable d'ailleurs du désert, peuvent nous permettre de dater la période luxuriante dont on parle aujourd'hui. Des pollens datant de 12 000 ans, capturés dans des boues par exemple au Maroc, et qui révèlent donc des plantes et des arbres facilement identifiables. Tout ça, Frédéric Duquesnoy, ce sont des indices très importants pour réécrire finalement, pour en tout cas avoir une bonne photographie de cette période.
Oui, tout à fait, d'autant plus qu'on peut les dater la plupart du temps, et donc on a le cadre chrono-environnemental avec l'évolution des paysages au fil des millénaires. En plus, ça permet de réaliser que le Sahara, c'est 9 millions de kilomètres carrés et que tous ces événements ne se sont pas produits en même temps. Dans toutes les zones du Sahara, il y a eu des gradients et qu'en même temps, ils n'ont pas eu la même importance partout. Et ça, ça permet également de relativiser un petit peu les données et de mettre un petit peu des scénarios un peu plus précis sur chaque région quand on peut avoir des données plus détaillées.
Jean-Loïc Lequelec, qui sont les têtes rondes, s'il vous plaît?
Ce sont des personnages peints. On a appelé tête ronde des anthropomorphes. On dit anthropomorphes quand on est préhistorien parce que on ne sait pas trop. C'est des êtres qui ressemblent à des êtres humains, mais on ne sait pas si c'est des dieux, si c'est des véritables êtres humains, si c'est des héros. On ne sait pas trop. Donc on dit anthropomorphes. Et cela se caractérise par une tête sans trait du visage. On voit pas les yeux, on voit pas la bouche, on voit pas le nez, mais c'est une énorme tête ronde avec parfois des protubérances. Et par exemple, le grand dieu martien de Séfar, dont parlait Frédéric tout à l'heure, c'est typiquement une de ces représentations des têtes rondes. Et donc, c'est un surnom qu'on leur a donné pour voir de quoi on parle. C'est des peintures qui sont probablement parmi les plus anciennes du Sahara central.
C'est-à-dire, pour la datation?
Alors, celles-ci ne sont pas datées. Il y a d'autres peintures qu'on peut à peu près dater. Celles-ci ne sont pas vraiment datées. Ce qu'on peut dire avec certitude, c'est qu'elles sont postérieures à quelque chose comme 9000 à tout casser avant notre ère. Mais postérieures de combien? On sait pas trop. Celles-ci sont pas trop datées. On sait que c'est les plus anciennes parce qu'il y a des superpositions qui montrent qu'elles sont souvent sous les peintures qu'on appelle, disons, pastorales, puisqu'elles montrent un monde de pastoralisme. Et celles qui sont pastorales, par contre, on peut assez souvent les situer parce que, tout simplement, on y voit des bovins. Évidemment, des pasteurs avec leurs bêtes, des bergers avec leurs moutons, et comme disait Joséphine Le Sueur tout à l'heure, les archéozoologues retrouvent les os et ils identifient les espèces et ils peuvent dater les os. Et on sait qu'au Sahara central, les bovins apparaissent autour du 6e, 5e millénaire avant notre ère, et qu'ils se généralisent, leur élevage se généralise à partir du 5e. Mais dans le 4e millénaire avant notre ère. Et donc, évidemment qu'ils n'ont pas pu être représentés sur les images avant d'être là. Les images n'ont été faites, les images qui représentent des scènes pastorales n'ont été faites qu'à partir du moment où il y a eu des bovins. Et donc, ces images, elles sont datées, grosso modo, du 5e, à cheval sur le 5e, 4e millénaire avant notre ère.
Et, ça, Frédéric...
Et les têtes rondes sont antérieures.
C'est voilà. Ça. Et ça, c'est très important, Frédéric Duquesnoy, parce que ces animaux, ces bovins, donc ces vaches, par exemple, elles indique aussi un changement du climat. Il y a d'autres animaux qui vont arriver, comme les chèvres et les moutons. Et tout ça, ça montre aussi cette aridification qui va arriver petit à petit au Sahara.
Tout à fait. On voit donc dans la période, pour la période pastorale, on voit les peintures qu'on considère comme les plus anciennes de cette période, toujours en raison des superpositions, comme le disait Jean-Loïc, des grands troupeaux de bovins avec souvent des bœufs magnifiés, comme on peut en retrouver dans les populations pastorales actuelles. Et puis, petit à petit, on voit que les troupeaux vont diminuer. On ne voit plus que des individus représentés, une vache par-ci, par-là. Oui. Et on voit notamment le pie apparaître. Et donc, on peut penser que c'est une mise en valeur plutôt non plus de l'importance du troupeau, mais plutôt de la ressource alimentaire que constitue le lait. Et puis petit à petit, eh bien, les bovins disparaissent complètement des peintures et on voit encore les caprins. Et puis c'est le cheval, puis le chameau qui apparaissent et remplacent complètement les bovins.
Ça, c'est le climat qui change aussi.
Voilà, c'est le climat qui change. Et ça, c'est vraiment les vestiges rupestres en sont vraiment l'indice le plus probant.
Allez, on va passer aux questions. Au sujet du climat, justement, Frédéric Duquesnoy et Jean-Luc Lequellec, Pierre aimerait en savoir un petit peu plus sur ce cycle de 21 000 ans effectué tout à l'heure avec cette affaire de rotation de la Terre et qui explique justement ce passage de périodes humides à des périodes sèches arides. Jean-Luc Lequellec, est-ce que vous voulez nous l'expliquer en deux mots, s'il vous plaît ?
Alors, c'est quelque chose qui a été découvert par un mathématicien, qui s'appelle Milankovitch, et qui a montré que l'axe de la Terre est incliné, mais cette inclinaison varie au cours des millénaires, et du fait de la variation de cette inclinaison, et puis de plusieurs autres paramètres, mais c'est vraiment un petit peu compliqué, et puis il faudrait des schémas pour bien le montrer. Ouais. En tout cas, le fond de l'affaire, c'est que la variation de l'axe de rotation terrestre et la variation de quelques autres paramètres font que l'ensoleillement varie. Et donc, il y a des périodes où la Terre est plus ensoleillée et d'autres périodes où elle l'est moins, où certaines zones le sont plus, où d'autres le sont moins. Et c'est ce qui explique notamment qu'on a, lors du dernier grand maximum glaciaire, par exemple, les zones désertiques sur le globe, ça occupait la moitié des surfaces terrestres entre 30 degrés nord et 30 degrés sud, par exemple. Il y avait une énorme ceinture désertique à ce moment-là.
Donc cette combinaison, modifie l'ensoleillement, le régime de pluie, en fait, c'est ça, hein ?
C'est ça, voilà. Après, c'est très très compliqué, évidemment, il y a beaucoup d'autres facteurs.
Et ça s'est souvent produit, d'ailleurs, Frédéric Duquesnoy. C'est pas un épisode dans l'histoire, hein ?
Non, ce sont des cycles, donc, pour ce paramètre-là de 21 000 ans, mais il y a d'autres cycles de 40 000 ans, 160 ans, 160 000 ans. Donc, ce sont des phénomènes qui sont revenus tout au long de l'âge de l'univers.
Allez, il nous reste à peine 2 minutes, on va répondre très vite aux questions. Alain n'arrive toujours pas à comprendre ni à accepter que tout le sable du Sahara ait pu se former en 5 000 ans seulement. Qu'est-ce que vous voulez lui répondre, Jean-Luc Lequellec ?
Le sable s'est formé en beaucoup plus longtemps que ça. Nous, la période de 5 000 ans, c'est la période pastorale, disons, la période pendant laquelle on voit apparaître au Sahara des gens qui élèvent des bovins. Mais le Sahara lui-même, la zone saharienne et le sable, là, est présent depuis des temps infiniment supérieurs.
Pascal dit, vous nous dites que le Sahara comporte plus de roches que de sable. Je ne comprends pas, parce que quand on regarde sur Internet, on voit que du sable. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ?
On a l'impression, effectivement, vu sur les images satellites, qu'il n'y a que du sable. Mais en fait, non, c'est essentiellement de la roche dure. Ouais. Les sables, ce sont vraiment les étendues jaune clair qui sont les ergues, mais une grande partie et la grande majorité du Sahara sont des roches dures plus ou moins découpées. Donc effectivement, il y a des zones entières où il n'y a absolument pas de relief, mais ce n'est pas du sable.
Françoise nous dit, quelle émotion d'entendre parler des peintures rupestres où les scènes représentées sont celles de la vie quotidienne et de centaines d'animaux il y a au moins 6000 ans, magnifique et émouvant. Et puis enfin, Rama confirme qu'il est impossible de faire des découvertes sans les Touaregs. J'ai vu des gravures incroyables dans le Hogar, dit-elle. Jean-Luc Lequellec, pour finir là-dessus.
Oui, le Hagar, localement, c'est une autre de ces zones centro-sahariennes qui est remplie d'images rupestres qui sont effectivement très émouvantes. C'est toujours très émouvant de marcher dans un désert et puis de tomber sur des témoignages de vie laissés par les gens eux-mêmes qui ont vécu dans ces endroits-là à la préhistoire.
Merci en tout cas beaucoup à tous les deux. Merci aux équipes d'ICI La Rochelle. Je renvoie donc sur ce documentaire Sahara vers l'énigme du paradis perdu. C'est un film de Saléa Gerdane à voir demain sur France 5 à 21h. Et puis l'exposition Désert qui vient d'ouvrir au Muséum National d'Histoire Naturelle pour découvrir tous les déserts du monde. La vie dans les déserts, l'habitat du désert et les autres animaux, c'est jusqu'à fin novembre. Merci beaucoup à tous les deux. Bon retour.
Merci.
Merci. Beaucoup.